Radio Okapi.
Une lancement depuis samedi par les forces conjointes FARDC et UPDF des opérations contre les positions des EDF à Walese Vankoutou en Ituri. Déjà 3 bastions détruits et ces rebelles en débandade, d'après des sources locales. Information non confirmée par les FARDC. Naufrage de la baleinière HP Mapamboli le week-end dernier à Mbandaka. Une instruction judiciaire est en cours afin de déterminer les responsabilités de cette catastrophe. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports et Voies de Communication hier à Kinshasa. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe avec son collègue des médias. Et puis, l'invité de ce midi, Jean-François Vézina, chef de l'équipe de lutte contre les violences sexuelles au sein de la police des Nations Unies, UNPOL, à Bukavu. Il revient sur les principales activités menées avec la PNC Sud Kivu de janvier à septembre 2023. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Les forces conjointes FARDC et armée ougandaise ont lancé depuis samedi les opérations contre les positions des EDF dans la chefferie de Walese Vankoutou, territoire d'Irumu. Selon des sources locales, 3 bastions de ce groupe armé sont détruits et ces rebelles sont en débandade. On signale également le déplacement de la population dans la zone. L'armée n'a pas encore avancé un bilan provisoire de ces combats. De son côté, la société civile demande aux autorités militaires de traquer ces rebelles jusqu'à l'anéantissement de ce groupe armé. Ézéchiel Mouzalia.
Les FARDC et l'armée ougandaise bombardent les positions des rebelles localisées dans la forêt de la chefferie de Walese Vankoutou. D'autres militaires sont déployés sur les lignes de front pour poursuivre les rebelles en fuite. Au moins 3 bastions de l'ennemi à l'est du village Idohu, sur la colline Boutani et à Israël, sont détruits, affirment des sources locales. La société civile de Walese Vankoutou indique que ces détonations d'armes sont entendues depuis samedi dans la zone et de nombreux habitants sont en déplacement vers Kataluma et Bapoulou. Son président ajoute que les dernières attaques de ces groupes armés remontent au mois de septembre dernier où 48 villes ont été tuées et une vingtaine de maisons incendiées. Dieudonné Malangaï.
La force mutualisée d'appeler des pilonnes, ça fait au moins 10 ans aujourd'hui. Les ADF sont actifs dans la chefferie de Walese Vankoutou.
L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, demande aux autorités militaires d'intensifier ses opérations à l'ouest de la RN4 ainsi que vers Mambasa pour empêcher la progression de ces rebelles vers d'autres agglomérations. Son coordonnateur Christophe Mouyanderou.
Avec ces frappes, nous voulons voir que ça puisse continuer jusqu'à ce qu'on puisse détruire tous les bastions.
Le porte-parole de ces opérations conjointes, le colonel Mac Azoukai, promet de s'exprimer ultérieurement. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, EACRF, dénonce une embuscade de la part d'un groupe armé local contre son unité ougandaise déployée dans le territoire de Rutshuru. Dans un communiqué partagé sur son Twitter officiel, la force précise que l'incident a eu lieu dans la matinée d'hier à Rukoro. Nous sommes sur l'axe Rutshuru-Centre-Bunagana. Si ce communiqué ne révèle aucun bilan, certaines sources locales parlent des blessés lors de cet incident. Récit des faits avec Bernard.
La force régionale précise que le convoi du contingent ougandais quittait Kiwanja pour aller se ravitailler à Bunagana lorsqu'il est tombé dans une embuscade à la hauteur du village Rukoro dans la localité de Burayi. L'EACRF précise que les troupes ougandaises se sont battues conformément à leurs règles d'engagement et ont réussi à passer pour atteindre avec succès leur destination. Considérant qu'il s'agit d'un acte de provocation dont le mobile n'est pas encore connu, la force régionale affirme qu'une enquête est en cours pour identifier les auteurs de l'attaque. Précisons qu'hier déjà, un message attribué à un cadre du groupe SM Signatura partagé via WhatsApp parlait de cette embuscade tendue autour de 9h45 locale par les combattants de la coalition VDP contre un convoi de 4 jeeps, selon cette source, appartenant aux rebelles du M23 et aux militaires ougandais UPDF. Cette source et plusieurs autres acteurs locaux parlent de quelques personnes blessées lors de cet incident, sans plus. Rappelons que, depuis quelques semaines, des messages menaçants contre l'EACRF sont diffusés à travers les réseaux sociaux par certains acteurs, s'appelant Wazalendo. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Et à propos des affrontements la semaine dernière entre deux fractions des Maïmaï dans le territoire de Kasongo-Maniema, le bureau de l'Assemblée provinciale réagit. Dans une sortie médiatique, le président du bureau d'âge déplore cette incursion qui a causé mort d'hommes, destruction des maisons et déplacement massif de la population. Le député Makongaiki Claude Foreman appelle les belligérants à privilégier la paix, la fraternité et la concorde pour permettre à la population de regagner leur milieu pendant cette période préélectorale. On écoute le député Makonga Iki Claude au micro de Florence Kiza.
Nous invitons le gouvernement provincial du Maniema d'organiser une mission de bons offices pour réconcilier les deux peuples frères qui ont toujours cohabité en parfaite harmonie et remettre l'autorité de l'État et la cohésion sociale. Diligenter une enquête pour établir les responsabilités et que les auteurs répondent de leurs actes. Assister dans la mesure du possible rapidement les familles des victimes ainsi que les sans-abri. Faire le plaidoyer au niveau national et auprès des ONG nationales et internationales afin de les venir en aide. De prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province à l'approche des élections générales. Enfin, nous demandons à la population de Kasongo de rester calme en attendant que l'affaire soit prise en charge par les pouvoirs publics et surtout de n'entrevoir aucune action de représailles. Que la paix règne sur toute l'étendue de la province du Maniema.
Revenons sur le naufrage de la baleinière HP Mapamboli le week-end dernier à Mbandaka. Avec cette annonce, le ministre des Transports et Voies de Communication dit avoir échangé à ce sujet avec sa collègue de la justice, Rose Mutombo, pour ouvrir une instruction judiciaire afin de déterminer les responsables de cette catastrophe. Marc Ekila l'a fait savoir hier à Kinshasa au cours d'une conférence de presse conjointe avec son collègue des médias, Patrick Mouyaya. On écoute le ministre Marc Ekila des Transports et Voies de Communication au micro de Paul Matendo.
Ces assises nous donnent l'opportunité de plancher sur le challenge du développement intégral de la République démocratique du Congo que nous ne cesserons de décrire comme la somme des développements de chacune de nos entités territoriales décentralisées. La problématique des 15% de la redevance minière revenant aux entités territoriales décentralisées, vues par mon ministère, se pose principalement en termes de formation et de renforcement des capacités des animateurs des entités territoriales.
Toutes nos excuses. Notez qu'au cours de cette conférence de presse, Marc Ekila a souligné que l'RDC vient d'enregistrer avec le drame de Mbandaka le 88e naufrage des baleinières cette année sur l'ensemble du pays. Nous allons revenir sur l'interview ou bien le son du ministre Marc Ekila dans nos prochaines éditions. En attendant, sachez que la Fédération des entreprises du Congo FEC du Grand Bandundu s'insurge contre le gouvernement provincial du Kwango. Ce dernier a placé une barrière sur la nationale numéro 1, précisément au niveau de 316 pour le recouvrement des vignettes de sa province. Et récemment, une autre barrière a été placée au niveau de Bachongo sur la nationale numéro 1 pour la perception des taxes en rapport avec le fonds pour la promotion de la santé. La FEC pense que c'est une tracasserie car même les véhicules en transit qui payent déjà ces taxes dans leur province sont encore obligés de les payer au Kwango. Katembo Mikaba, président FEC au Grand Bandundu, appelle le gouvernement à s'impliquer pour la suppression de ces barrières. Irène Mboma nous fait le point.
FEC Grand Bandundu, en plaçant ces barrières pour le recouvrement des taxes sur la RN1, qui est une route qui relie plusieurs provinces, le gouvernement provincial du Kwango n'a pas bien identifié ses cibles. Mikaba Katembo s'est dit contre cette situation car selon lui, cela constitue une tracasserie pour les véhicules en transit au Kwango.
La route là, c'est la route nationale. Donc si un véhicule quitte le Kassai, ça va traverser quatre provinces. Et si ça payait toutes ces taxes là partout, donc ça devient vraiment une tracasserie. La FEC demande l'implication du gouvernement central pour que le gouvernement du Kwango puisse bien voir comment percevoir ces taxes.
Contacté à ce sujet, le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango, maître Adela Nkisi, qui s'appuie sur la loi 08 portant autonomisation des provinces, se justifie comme suit.
Et si la province ne s'organisait pas, où irons-nous chercher les recettes pour nous prendre en charge? Et donc, bon, la FEC peut réagir à sa manière, mais nous sommes autorisés par la loi pour ce faire. Et donc, c'est une observation.
Selon Mikaba Katembo, contrairement à la province du Kwilu, les véhicules en transit ne payent pas de taxes sur les fonds pour la promotion de la santé et aussi la vignette ne leur est pas exigée. Irène Mboma, Bandundoville, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la grève du personnel non médecin dans les hôpitaux publics. Le mouvement s'est poursuivi dans la ville de Kinshasa. Au CNPP, Centre Neuropsychopathologique de Kinshasa, médecins et gardes malades s'en plaignent également. Ils appellent le gouvernement à régulariser la situation de ces personnes indispensables au bon fonctionnement des hôpitaux. C'est un reportage signé Babel Mpongo Masimango et Merveille Hassani.
Comme dans plusieurs hôpitaux publics, cette grève handicape une bonne partie du travail. Professeur Jean Cassois, neuropsychiatre et doyen de médecins au CNPP.
Un impact est terrible. Moi, médecin, si j'ai prescrit, qui va aller donner le médicament? Qui va suivre? Il n'y a personne. Et il y a des nettoyeurs, des suiveurs. Ça n'existe pas pour l'instant. Quand quelqu'un pleure, il faut l'écouter. On n'a même pas besoin d'hospitaliser quelqu'un aujourd'hui puisqu'il n'a pas de prise en charge.
Adeline, une de garde malade, s'est plainte de cette situation.
Il faut grever cils.
La grève doit prendre fin pour le bien des malades. Ici au CNPP, sans infirmier, c'est difficile. Un malade énervé peut facilement s'en prendre aux gardes malades parce qu'ils ont des problèmes au niveau du cerveau.
Notez qu'au pavillon ouvert des hommes et dans celui de femmes, un infirmier est toujours de permanence vu la complexité des cas. Florence Namazo, des services séjour, explique.
Je suis en grève, mais nous avons des malades qui ne peuvent rester seuls la nuit. Nous faisons un service minimum. Je viens de totaliser 10 ans de service. J'ai un numéro matriculé. Mais je suis non payé. Au point où nous en sommes, nous espérons qu'en Dieu. Or ici, nous courons beaucoup de risques, puisqu'un malade en colère peut facilement nous rouer des coups.
Les souhaits de tous est que le gouvernement réponde favorablement aux revendications de ses personnels importants pour une bonne prise en charge de malades.
Et puis, le gouvernement provincial du Tanganyika a acheminé hier une aide d'urgence d'intrant pour la prise en charge des malades de choléra dans le territoire de Kongolo. Le médecin chef de zone de santé de Kongolo signale que la zone a déjà enregistré 4 décès et une soixantaine de cas de choléra. Docteur Kisubi Nyembo salue cette dotation du gouvernement du Tanganyika et rappelle à la communauté que la prise en charge des malades est gratuite. On écoute le médecin chef de zone de santé de Kongolo dans cet extrait choisi par Paulin Mounanga.
Plusieurs actions sont menées dans la zone de santé, notamment la prise en charge, les activités communautaires, notamment la désinfection de ménages, la chloration au lieu d'approvisionnement en eau. Et à ce jour, après avoir manifesté certains défis dans la zone, c'est vrai, le gouvernement provincial, depuis le début, ne cesse de nous appuyer au travers les partenaires. Et aujourd'hui, nous tenons sincèrement à remercier. Un Baxter de RL peut arriver à sauver une vie d'une personne. Et quand je vois toutes cette donation, autant de Baxter, autant d'intrants pour la prise en charge. Nous sommes vraiment émus au nom de la zone de santé de Kongolo. C'est aussi pour nous un devoir, voire obligation, de bien assurer la prise en charge de tous nos malades qui continuent à développer les signes. À cette occasion, je profite aussi de lancer un message de sensibilisation à toute la communauté présente. La prise en charge est gratuite. C'est formellement interdit de garder les malades à la maison lorsqu'ils présentent les signes.
Kasaï Oriental, signalant la clôture hier à Mbujimayi de la formation d'une trentaine de femmes candidates aux prochaines élections. Cet atelier de deux jours a été organisé par la Dynamique Nationale des Femmes Candidates, DINAFEC, appuyée financièrement par ONU Femmes. D'après Dr Nathalie Ndaya, coordonnatrice provinciale de la DINAFEC Kasaï Oriental, les participantes ont été outillées sur l'attitude pouvant leur permettre de mieux battre leur campagne électorale. Elles ont appris à rédiger les messages clés de campagne, la prise de parole en public, ainsi que l'élaboration d'un plan de campagne électorale. La coordonnatrice provinciale de la DINAFEC Kasaï Oriental s'exprime au téléphone de Esther Ndalafina.
Nous avons pensé organiser cette formation pour pouvoir capaciter les femmes et leur donner de la matière par rapport aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Donc, le constat était que sur terrain, nous avons vu que les femmes n'étaient pas vraiment dynamiques et ne pouvaient pas se faire ressentir comme il le faut. Et nous avons pensé avec la structure et la collaboration de l'ONU Femmes pour les outiller, leur permettre à formuler un message, à avoir un plan de campagne et aussi par rapport à la communication, leur donner des stratégies pouvant les aider vraiment à battre campagne et à être efficaces. Et les matières qui ont été abordées sont le leadership, la communication, l'organisation d'un plan de campagne, comment formuler un message de campagne, présenter son discours de campagne et comment prendre même parole devant la population.
Actualité internationale.
Nous sommes en Angola. Quelques jours après avoir échappé à une procédure de destitution lancée par l'opposition, João Lourenço est apparu confiant. Le président angolais a tenu un discours à la nation face aux parlementaires, occasion pour lui de rappeler à ses détracteurs qu'il est toujours président. Et puis, l'Union européenne va ouvrir un couloir aérien humanitaire via l'Égypte pour venir en aide à la population de Gaza. C'est ce qu'a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les deux premiers vols doivent partir cette semaine. Ils vont transporter notamment des médicaments et des kits d'hygiène.
L'invité.
Il s'agit de Jean-François Vézina. Il est chef de l'équipe de lutte contre les violences sexuelles au sein de la police des Nations Unies, UNPOL à Bukavu. Il revient sur les principales activités menées avec la PNC Sud Kivu depuis janvier jusqu'en septembre 2023. Activités allant de la sensibilisation dans les écoles, universités et églises. Aussi, et le mentorat des officiers de la police judiciaire OPJ et la formation. Jean-François Vézina s'entretient avec Rachel Kissé.
UNPOL, Jean-François Vézina, bonjour.
Bonjour Rachel.
Qu'est-ce qui a été fait pendant ce 9 premiers mois de l'année 2023 au sein de votre unité SPT ici à Bukavu?
Pas spécifiquement à Bukavu, les activités de l'équipe se déclinent dans plusieurs sphères. On parle principalement de sensibilisation auprès de la population. Au niveau des sensibilisations, spécifiquement à Bukavu, on parle de près de 100 activités de sensibilisation qui ont eu lieu dans différents endroits. Milieu scolaire, université, dans les églises, auprès de la PNC, les officiers de la PNC, de la Police nationale du Congo. Ensuite, tout ce qui regarde le mentorat auprès de nos partenaires des EPEPVS, les escadrons de protection de l'enfance et de prévention des violences sexuelles. On parle également environ d'une centaine d'activités de mentorat. Là, on parle de suivi en termes d'enquête, conseil en matière d'interrogatoire de victimes, au niveau de rédaction des procès-verbaux. En marge de tout ça aussi, on planifie les activités de formation et des ateliers. Spécifiquement à Bukavu, c'est 10 activités, formation et ateliers, les ateliers de 2 jours qui concernent l'accueil, l'orientation, le référencement des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Puis, on parle de formation de 10 jours pour tout ce qui est l'aspect violences sexuelles basées sur le genre, rédaction de rapports, rencontre de la victime, l'aspect éthique, déontologique, etc. Au total, c'est 10 activités. En fait, l'ensemble des activités que j'ai énumérées auparavant, ce sont des activités qu'on mène conjointement avec notre partenaire. Nos partenaires sont les OPJ des escadrons de protection de l'enfance et de prévention des violences sexuelles. Et nous, on est là pour les supporter en termes de logistique, d'organisation de l'activité. Puis, on peut aussi mentorer les activités qu'on mène.
La MONUSCO est sur la voie de sortie. Dans quelles conditions vous laissez la PNC avec qui vous avez travaillé tout au long de cette période?
Si je me fie à mon personnel qui travaille conjointement avec notre partenaire, on voit une amélioration dans l'acquisition de compétences en communication, dans la matière aussi, sur les 19 formes de violences sexuelles. On voit une amélioration pour autonomiser notre partenaire là, à la suite de notre départ. Là.
Après le départ de la MONUSCO, vous pensez que les escadrons sont-ils en mesure de faire le travail comme il faut ou il y a encore des défis qui restent?
Quoique nous sommes fiers des avancées en termes de compétences chez nos partenaires, effectivement, il y a de nombreux défis qui restent à affronter pour la suite des choses lors du départ de la MONUSCO, principalement les défis logistiques. On parle de la logistique qui, honnêtement, est déficiente au sein de notre partenaire. C'est des équipements de base, là, que ce soit des calepins de notes, que ce soit des crayons, les ordinateurs, les véhicules pour le transport des victimes ou des suspects. Ça, c'est assez important pour la suite des activités. Également, un défi de collaboration avec la magistrature. Donc, il y a des travaux qui ont été entamés dans les derniers mois pour améliorer la relation entre la magistrature et nos OPJ de la PNC, dans l'objectif qu'il y ait une communication bilatérale, soit améliorer les procès-verbaux, le suivi auprès des victimes. Bref, assurer une pérennité dans la communication qu'on essaie d'établir actuellement. Évidemment, il y a aussi l'aspect pécunier. Pour nos OPJ, on le constate, leurs difficultés souvent à soit se déplacer au travail, à soit réaliser des suivis en lien avec leurs activités. On parle de transport de victimes, support aux victimes, transport des suspects. Donc ça, ça demeure un autre défi. Puis peut-être un dernier qui serait un défi de collaboration entre nos OPJ des escadrons de protection de l'enfance et de la prévention des violences sexuelles et les OPJ ou les policiers des autres commissariats. Amener une meilleure collaboration justement pour des échanges de services en termes de transport, de support logistique pour réaliser les activités des EPPVS. Ben nous, lorsqu'on va quitter, on est confiant qu'il y aura une meilleure autonomie du côté de la réalisation des activités. Les OPJ seront en mesure de poursuivre les sensibilisations en matière de violences sexuelles ou de protection de l'enfance. Elles seront également, je pense, mieux outillées pour ce qui est de la rédaction des rapports et tous les suivis reliés au code de violences sexuelles.
Et pour finir, êtes-vous satisfait de votre collaboration avec la PNC, surtout en parlant des EPPVS?
Oui, très satisfait, honnêtement, quoique je vous ai énuméré les défis auparavant. On fait face à des OPJ, des policiers motivés, quoique souvent à court de ressources, à vouloir faire leur travail, à vouloir assister les victimes ou les enfants dans leur travail quotidien. Malgré tous les défis, je lève mon chapeau aux OPJ pour la collaboration et le travail qu'ils ont fait avec nous.
Je vous remercie.
Merci, Rachel.
Le chef de l'équipe de lutte contre les violences sexuelles au sein de la police des Nations Unies, UNPOL à Bukavu, répondait aux questions de Rachel Kiesse. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikotachi-Vuita. Alain Ngoy à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.